Seigneur, nous te donnons toute la gloire pour le privilège que tu nous donnes d'être dans ta maison ce matin. Tu veux parler à nos cœurs et tu veux, Seigneur notre roi, utiliser ce rendez-vous pour nous édifier davantage. Que tout en nous, Seigneur, s'étaise et que ta parole qui vivifie, ta parole qui transforme et régénère, pénètre notre cœur maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Rois chapitre 17, les versets 10 à 16. Et Marc chapitre 12, les versets 38 à 44. Je lis pour nous le texte dans la version 8 secondes. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit: va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit: apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine, qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Marc, chapitre 12, des versets 38 à 44. Il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en longue robe et à être salués dans les places publiques, qui cherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Jésus étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comme la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Amen. Dimanche dernier,
Le texte qui a fait l'objet du message tournait autour de l'amour. L'amour vertical et l'amour horizontal. Et l'une des choses qui nous a marqué à la fin du texte de l'évangile de dimanche dernier, au verset 34, c'est cette parole de Jésus. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et ceci, c'était après que Jésus ait constaté que les scribes parlaient avec beaucoup d'intelligence. Et au travers de ce texte, on pouvait se rendre compte que la question du salut n'est pas une affaire d'intelligence, mais c'est une question de foi, une question de communion avec le Seigneur. Malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui ont une connaissance intellectuelle de Jésus, mais ils n'ont pas une communion avec Jésus parce que cette connaissance n'est jamais descendue dans leur cœur pour transformer leur vie avec l'aide du Saint-Esprit. Pour ce dimanche, allant dans le même sens, le Seigneur nous a mis à cœur comme thème de notre message, paraître ou être. Paraître ou être. Et je m'en vais vous raconter une petite histoire qui ressort des réseaux sociaux. C'est un homme, un responsable, a priori d'après les images, qui dirige beaucoup de personnes, mais avec un bras de fer, assez rude et assez difficile dans sa manière de gérer les hommes. Qui un jour, en pleine réunion, il y avait une guêpe, comme les guêpes aiment bien nicher près des ampoules, rentre dans son vêtement. Et la guêpe est en train de le piquer. Il retire la veste. Il était à quatre épingles, n'est-ce pas? Il retire la veste. Il retire la chemise qu'il avait sur lui. Et le t-shirt qu'il avait à l'intérieur était troué partout. C'est amusant. Mais en réalité, c'est le reflet de ce qui se passe véritablement dans la vie de beaucoup d'autres personnes qui ont l'apparence des gens qui sont très bien, l'apparence des gens bien, mais qui au-dedans d'eux-mêmes sont autre chose. Et c'est ce à quoi est-ce que le Seigneur voudrait nous interpeller aujourd'hui. Notre texte de l'évangile est subdivisé en deux parties, apparemment dissociées, mais qui sont liées à regarder de plus près. La première partie est une mise en garde contre les scribes qui sont, pour les présenter brièvement, dans le sens primitif, le mot scribe signifie secrétaire, ensuite savant. En outre, nous rencontrons dans le Nouveau Testament le terme plus précis de juriste ou encore docteur de la loi. Ce sont des hommes instruits dans la loi de Moïse, dans les Écritures sacrées, enseignant de la parole. Les scribes examinaient les questions les plus difficiles qu'on posait sur la loi. Mais curieusement, leur intelligence et toute leur connaissance étaient mises à mal devant Jésus. Et on peut se poser la question, pourquoi? L'une des raisons, c'est que ce sont des personnes enflées d'orgueil qui se préoccupaient de l'apparence extérieure au lieu d'une communion véritable avec le Seigneur. Nous remarquons aujourd'hui comment le culte de la personnalité est célébré. Tout se fait de façon à attirer les regards, vu que la société dans laquelle nous vivons est beaucoup plus portée sur le paraître. Beaucoup de fils et de filles de Dieu sont tombés dans ce piège. Les scribes arboraient un certain vernis religieux. Ils aimaient parader en robe longue. Ce vêtement les distinguait du bas peuple et leur conférait une apparence de sainteté. Ils aimaient à être salués sur les places publiques avec tous les égards dus à leur titre. Cela flattait leur égo. Ils recherchaient les places d'honneur dans les synagogues, comme si le siège occupé avait un lien quelconque avec la piété. Ils ne se contentaient pas seulement de leur rang dans la sphère religieuse, ils étaient très sensibles aussi aux distinctions sociales. Ils convoitaient les premières places dans les festins. Il nous est arrivé un jour, pendant une célébration de mariage, le cocktail qui était organisé, un monsieur qui a carrément failli gâcher toute la fête parce qu'il n'était pas assis à la loge d'honneur. Et ça arrive très souvent, n'est-ce pas? Moi qui suis le père ou bien le tuteur ou bien qui a encadré l'enfant, pourquoi je ne suis pas assis à cette table d'honneur? Et si je ne suis pas assis là-bas, la fête se gâte. Il y a des gens comme ça qui aiment les premières places, qui aiment les places d'honneur. Mais au-dedans, ces scribes, ils étaient cupides et fous. Ils dépossédaient les veuves de leur maison et même du nécessaire vital pour s'enrichir, pour prétestant que l'argent ainsi obtenu était pour le Seigneur. Ils récitaient de longues prières qui n'étaient qu'une succession de mots pompeux et creux. En somme, ils aimaient l'ostentation, la popularité, la prééminence, les honneurs, les biens matériels, la piété apparente. Ces habitudes n'ont rien à voir avec le modèle de vie que Christ nous montre. Remarquez, tout ce que Dieu fait est lié à ce qu'il est. C'est parce qu'il est miséricordieux qu'il pardonne. C'est parce qu'il est patient qu'il use de patience envers nous, les pécheurs, jusqu'à ce que nous parvenions à la repentance. C'est parce qu'il est sauveur qu'il nous sauve. C'est parce qu'il est Seigneur qu'il règne. Et c'est parce que Dieu est puissant qu'il guérit, délivre, fait des miracles et des prodiges dans notre vie au quotidien. Suivant cette logique, un chrétien qui veut faire des œuvres puissantes doit commencer par être vrai dans sa communion avec le Seigneur. Nous comprenons finalement l'une des causes majeures de la pauvreté spirituelle de beaucoup de chrétiens de nos jours, contrairement à ceux de l'Église primitive. C'est le fait que dans notre époque, nous voulons manifester ce que nous ne sommes pas. Libérer les capacités sans être libres ou libérer nous-mêmes. Aimer sans être amour, réconcilier sans être en paix, servir sans être des serviteurs. Il faut que la puissance de Dieu transforme d'abord notre être pour que nous manifestions la vie de Christ au quotidien. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus n'a pas cherché à paraître. Il a préféré laisser les gens découvrir son être intérieur, ce qu'il est vraiment à travers ses œuvres et son contact avec eux. Christ n'a jamais cherché à impressionner qui que ce soit à travers son habillement ou son style de coiffure. Par contre, tous ceux qui l'approchaient découvraient un cœur, le cœur d'un homme plein d'humilité, quelqu'un rempli d'amour et de compassion pour son semblable. Est-ce ce modèle, le modèle de Christ que nous suivons aujourd'hui? Il faut donc que la connaissance intellectuelle que nous avons de Dieu intègre nos comportements et inspire nos actions au quotidien. Quand la parole de Dieu rentre dans notre comportement, ce que nous faisons devient le résultat de ce que nous sommes. Dans la deuxième partie du texte, Jésus met en évidence une personne effacée et même méprisée dans la société. Il s'agit de la veuve. Elle qui était mise à côté, contrairement aux scribes, qui étaient les personnes en vue dans la synagogue. Jésus a pris place au temple et il était assis face au tronc. Et les gens apportaient leurs offrandes, leurs dons, pour redonner gloire au Seigneur. Et les riches mettaient dans le tronc des dons conséquents pour le trésor dans le temple. Jésus savait que leur offrande ne procédait d'aucun sacrifice. Ils donnaient de leur superflu. Ils savaient aussi que les deux pièces mises par la veuve étaient tout ce qu'elle avait pour vivre. Il n'hésita pas à déclarer que ce qu'elle avait donné représentait plus que toutes les autres offrandes réunies. Du point de vue strictement monétaire, elle avait très peu donné. Mais c'était tout ce qu'elle avait pour vivre. Le Seigneur mesure nous donc ce que nous apportons au travers de trois choses essentielles. Premièrement, nos motivations. Est-ce que je donne pour paraître devant les hommes, pour montrer que j'ai et que je suis en mesure de donner? Est-ce que c'est juste une formalité que je suis en train de remplir? Est-ce que je le fais par contrainte? Toutes ces questions doivent nous aider à voir ce qui nous motive quand nous apportons nos dons au Seigneur ou quand nous apportons notre offrande au Seigneur. La deuxième des choses, nos moyens. Dieu sait ce qu'il nous a donné comme bénédiction financière et même matérielle. Il sait la recette que tu as fait hier à la boutique. Il connaît ce que tu as fait le mois dernier. Et Dieu ne nous demandera jamais ce qu'il ne nous a pas donné. Ce n'est pas un Dieu injuste. Il sait ce que nous avons. Et la troisième des choses, Dieu connaît ce que nous gardons et ce qui nous reste, que ce soit dans nos comptes ou bien dans nos poches, n'est-ce pas? Il connaît toutes ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, l'autre texte de l'Ancien Testament, particulièrement dans 1 Roi 17 que nous avons lu, nous montre également l'histoire d'une veuve. Et on pourrait se demander pourquoi des veuves. Et j'ai envie de dire à une veuve dans cette salle qui se croyait abandonnée, rejetée et qui se croyait comme méprisée par les autres, que tu as de la valeur. Et le Seigneur a choisi ces veuves pour témoigner quelque chose de particulier à l'humanité tout entière. Élie fait la rencontre d'une veuve à Sarepta qui était pratiquement au bord du gouffre. Et nous savons que c'était une période où la famine avait envahi le peuple d'Israël. Et elle n'avait plus dans son pot qu'une poignée de farine. Et puis, dans sa cruche, un peu d'huile pour faire le dernier gâteau et manger avec son fils. Et après, il devait mourir. Élie, à la rencontre de cette femme, lui demande, « Fais-moi un gâteau et apporte-le-moi. » Et cette femme de dire une chose qui, pour ma part, était très, très significative. Cette femme répond à Élie, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. » L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Même si, a priori, cette déclaration de la veuve était une manière de dire, « Ton Dieu, là, lui-même, sait que tout ce qui me reste, ce n'est que cette poignée de farine, et un peu d'huile, c'était aussi une parole suffisamment forte qui démontrait que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est vivant et qui agit. Elle pouvait le dire sans le comprendre, mais effectivement, le Dieu qu'Élie servait est un Dieu qui est vivant et qui fait des choses extraordinaires. Et lui dit, va, et avec le peu de farine et le peu d'huile, prépare d'abord pour moi. C'est osé, n'est-ce pas? Prépare d'abord pour moi un gâteau et ensuite fais pour ton fils et toi. Comment est-ce quelque chose qui reste juste un tout petit peu? Tu veux d'abord que je fasse pour toi. Qu'est-ce que moi et mon fils nous allons manger? Mais le texte nous dit qu'à la suite de cette déclaration, il y a dû une parole de l'Éternel dans la vie de cette femme. Et il a dit que ta cruche ne sera jamais vide, ni ton pot ne sera jamais vide jusqu'à ce que la pluie revienne. Et le texte nous dit que cette femme a obéi et durant toute la saison sèche, elle n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que l'Éternel, Dieu lui-même est le mari des veuves et le père des orphelins. Il sait prendre soin de ces personnes. L'obéissance a donné pour la gloire de Dieu crée des multiplications dans notre vie. Et ouvre les portes de la bénédiction divine pour que même pendant les saisons de disette, les moments de sécheresse, nous soyons toujours dans l'abondance et que nous ayons toujours de quoi satisfaire nos besoins. C'est un témoignage suffisamment fort de ce que le Dieu vivant que nous servons est capable de faire dans notre vie. L'humilité de cette femme qui a accepté de donner tout ce qu'elle avait pour vivre à Élie, tout comme cette femme veuve qui a accepté de donner les deux pièces qui lui restaient pour vivre, témoigne que le Seigneur attend de nous un sacrifice total de notre être, de notre vie, un sacrifice de ce que nous avons de plus cher, afin que notre vie entière honore le Seigneur et le glorifie. Est-ce là ton partage? Au-delà de tout ceci, le texte nous révèle le caractère omniscient de Jésus. Ce qu'il regarde, ce n'est pas l'apparence physique, mais c'est notre cœur. Le cœur des scribes et de la veuve, il pouvait discerner qui est vrai et qui est faux. Dieu nous connaît. Si nous pouvons jongler les hommes, Dieu, lui, on ne peut le tromper. Bien-aimé, cesse de faire la comédie dans la maison de Dieu et sois vrai. Il y a trop de comédiens dans la maison de Dieu. Des personnes qui font semblant d'être véritablement en Christ, mais qui au fond ne le sont pas. Dieu veut des personnes vraies. La Bible nous encourage à avoir les mêmes sentiments qui animaient notre Seigneur durant son séjour terrestre. Et Philippiens 2:5 peut nous dire, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Si nous avons la pensée de Christ, je ne pense pas un seul instant que Christ nous motivera à ne pas faire le culte de notre apparence extérieure. Il ne nous encouragera nullement à chercher à plaire aux hommes, mais à être vrai dans notre manière de nous conduire. Le Seigneur Jésus-Christ nous invite à revoir véritablement ce que nous sommes. Est-ce que tu es vrai? Est-ce que ce que les gens voient de toi à l'apparence, c'est ce qui est réel dans ton cœur? Frères et sœurs, il est important pour nous de faire attention à notre conduite. Et nous comprenons pourquoi certaines personnes à la fin des temps pourront dire au Seigneur, « Seigneur, nous avons été dans ta maison chaque jour. Seigneur, nous avons fait ci en ton nom. » Et que le Seigneur dise, « Je ne vous connais pas. » Fais le choix aujourd'hui, bien-aimé, d'être au lieu de paraître. Que le Seigneur bénisse dans nos cœurs l'écoute de sa parole. Amen.